Voilà, bonjour à tous. Avant de commencer, je vous propose de prier. Seigneur, je veux d'abord te glorifier, te dire merci pour ces instants qu'on peut passer dans ton Église, tous ensemble, réunis à te louer, à écouter ta parole aussi. Je te prie d'inspirer tous les moments que nous vivons maintenant et voilà, apprends-nous à suivre les enseignements que tu nous apportes, Seigneur. Amen. Alors, nous sommes effectivement en période de vacances, comme Yvonique l'a souligné. Je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Certaines personnes sont encore actives en ce mois de juillet et puis bientôt au mois d'août, mais on voit bien que les rangs sont un peu clairsemés ce matin. Notre pasteur est en vacances. Et même pour ceux qui travaillent, c'est souvent une période où le rythme se ralentit un petit peu et où on va souvent prendre un peu plus de temps pour réfléchir, se poser. Finalement, pour aller vers l'essentiel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va laisser aller les choses, qu'on va se laisser aller, mais plutôt qu'on va essayer de se recentrer, peut-être de ne pas s'encombrer de poids inutiles. On va, en quelque sorte, alléger notre monture pour suivre un chemin meilleur que les autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous propose dans la première épître aux Corinthiens. Et à la fin du chapitre 12, il écrit: Maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. Et ce chemin, c'est celui de l'amour. Alors, je vais lire le chapitre 13 dans la première épître aux Corinthiens, donc ce texte très connu, qui s'appelle aussi l'hymne à l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne. Une cymbale brillante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, trois choses sont toujours là: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors, l'amour que dépeint Paul, pour commencer, ça n'est pas n'importe lequel amour. On entend bien à cette lecture que c'est un amour qui est noble, qui est fort, un amour exceptionnel. Et cet amour contraste tout d'abord avec le contexte général de la vie à Corinthe autour de l'an 50 après Jésus-Christ, à la période où Paul écrit. Et en effet, les Corinthiens avaient des mœurs, on va dire, assez particulières. Donc c'était une grande ville, ville importante, multiculturelle, ville de passage aussi, il y avait deux ports, et on y trouvait des pratiques religieuses diverses et variées. Et à l'intérieur même de l'église fondée par Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, il y avait ces influences, on retrouvait ces influences de la ville de Corinthe, avec beaucoup de disputes, beaucoup de rivalités, et le contexte de décadence, pour ne pas dire de dépravation, parfois, de cette ville, y était pour quelque chose. Donc, lorsque Paul écrit, il n'est plus à Corinthe, évidemment, il écrit parce qu'il est loin des Corinthiens, il est à Éphèse, et il a reçu des nouvelles peu réjouissantes de ce qui se passe dans cette église qu'il a lui-même fondée. Donc, il y a des tensions fortes, le désordre règne pendant le culte, et notamment pendant la scène, la distribution de la scène. Certains frères sont en procès les uns contre les autres dans l'église, et il y a même une histoire d'inceste. Alors finalement, à entendre ça, on se dit qu'on n'est pas si mal ici, à Melun, on n'a pas trop à s'inquiéter. Pourtant, ce contexte-là n'est pas sans rappeler notre contexte actuel. Les influences du monde sont elles aussi nombreuses dans cette église, dans toute église actuelle. Elles pénètrent bel et bien jusque dans l'église. Les chrétiens ne sont pas hermétiques à ce qui se passe autour d'eux, à moins de devenir sectaires. Si dans certains passages de l'Épître aux Corinthiens et d'autres Épîtres, Paul dicte très clairement la conduite qui est à suivre, donc dans cet Épître, on le voit au chapitre 6, par exemple, il parle des querelles entre chrétiens. Un peu plus loin, chapitre 7, il parle du mariage. Chapitre 11, de la scène. Donc, des indications très précises. Ici, au chapitre 13, il offre plutôt un encouragement assez général à vivre une vie plus saine, à vivre une vie plus sage dans son ensemble. Et il invite ses lecteurs à suivre un autre chemin, un chemin meilleur, à changer de façon d'être et de faire. Il veut finalement orienter les regards de ceux qui le lisent vers une réalité qui sera différente, différente de cette réalité qu'ils suivent actuellement et qui les enferme dans de mauvaises habitudes, qui les conduit à faire de mauvais choix. On peut lire au verset 11, « Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. » Paul montre aux Corinthiens qu'eux aussi, ils doivent grandir, qu'ils doivent aller vers plus de justice, plus de vérité. Et au verset 6, il ajoute, « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » En d'autres termes, et pour parler à la manière de Paul, on pourrait dire que l'amour ne ment pas. Et dans ce passage, la vérité, le thème de la vérité, c'est un thème clé. C'est un texte qui parle d'amour, mais aussi de vérité. Et cela rappelle, je crois, les paroles de Jésus, qui dit dans l'évangile de Jean, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Passer par Jésus, c'est recevoir l'amour du Père. C'est être réconcilié avec Dieu. Et c'est bien l'amour de Jésus qui nous fait avancer dans la vérité. Plus de faux-semblants, plus de phares, mais une relation saine et franche avec Dieu devient possible avec Jésus, et seulement avec Jésus. Cet appel à la vérité qui est lancé aux Corinthiens nous est lancé aujourd'hui aussi, à nous. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour y répondre ? Eh bien, Paul dit que c'est en suivant le chemin de l'amour. Alors suivre le chemin de l'amour, ça n'est pas l'amour au sens médiatique, j'allais dire bon marché, comme on l'entend souvent aujourd'hui. Suivre le chemin de l'amour, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à des titres du style « Le bonheur est dans le pré, l'amour est dans le pré » ou « Les vacances de l'amour ». J'ai des références solides. Mais je crois qu'on est dans quelque chose de très différent. Paul ne défend pas du tout un amour de pacotille. Ça n'est pas, vous savez, plein d'amour, que du bonheur, tout ira bien. Non, il ne s'agit pas d'aimer que ce qui nous est agréable ou plaisant. On est dans un amour bien différent. Le terme utilisé, c'est le terme grec « agapé », qui signifie « aimer une personne sincèrement en ayant une haute estime de cette personne ». On est dans cet amour que Jésus demande à ses disciples d'avoir, qu'il commande à ses disciples d'avoir, dans l'évangile de Matthieu. Alors, je vais vous lire un passage au chapitre 22. les versets 36 à 40. C'est un pharisien qui interroge Jésus. Donc Matthieu 22, verset 36, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Et là, le pharisien essaie de piéger Jésus. Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » On est dans cet amour agapé. Certaines versions de la Bible le traduisent par charité. C'est un amour du prochain qui est mis au-dessus de l'amour de soi. Et cela, quel que soit le prochain. Ça peut être le prochain qu'on apprécie, ça peut être le prochain qu'on apprécie un peu moins, voire qu'on ne supporte pas et qui nous exaspère. Parce que, et on le lit au verset 7 dans 1 Corinthiens 13, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, tout pardonner, tout supporter, tout croire, c'est déjà bien difficile, j'allais dire, avec les gens qu'on aime. Je pense à la relation qu'on peut avoir avec ses enfants, avec son conjoint, avec des amis aussi. Et pourtant, est-ce que ça n'est pas l'amour que Dieu nous témoigne, justement, cet amour qui supporte tout? Dieu qui nous aime tant qu'il donne son Fils pour nous, qui sommes pécheurs, qui sommes rebelles. Paul sait très bien de quoi il parle. Il a été le persécuteur des chrétiens. Il a assisté à des mises à mort. Il a encouragé des mises à mort de chrétiens. Et il a reçu cet amour qui pardonne tout, qui lui a pardonné cette persécution qu'il mettait en œuvre. Paul a rencontré Jésus et il a été transformé, il a été sauvé par l'amour de Dieu. Il ne défend donc pas un amour facile et il ne donne pas non plus de recettes. Il ne dit pas « faites ceci, ne faites pas cela ». Il donne plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un modèle de vie. Il décrit une façon d'être et de faire qui sera dictée par l'amour. Il ne définit pas l'amour, mais il montre les fruits qui sont portés par l'amour, un amour en action. Il montre les fruits de l'amour chrétien. Alors on pourrait parler du fruit de l'amour, comme on parle du fruit de l'esprit. Et d'ailleurs, le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. On peut le lire dans l'Épître aux Galates, au verset 22. « Voici ce que l'Esprit Saint produit, amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » Et on peut continuer la liste, etc. Mais le premier, c'est l'amour. Et c'est un amour en action qui ne peut pas venir uniquement de notre volonté. On ne peut pas produire de tels actes simplement parce qu'on a décidé de devenir bon, de faire des efforts personnels pour y parvenir. C'est un amour qui vient de Dieu et qui vient de ce que Dieu fait en nous. Un commentateur écrivait au XIXe siècle, au sujet de ce passage d'un Corinthiens 13, qu'il parle de l'activité de l'amour de Christ. L'activité de l'amour de Christ. Et Paul invite ses lecteurs à connaître une vie transformée, transformée par l'Esprit, transformée par l'amour, transformée par Jésus. Parce que cet amour qu'on a dans 1 Corinthiens 13, c'est Jésus qui l'incarne et qui le vit. Jésus est l'amour de Dieu incarné. Il est l'amour que Dieu nous envoie alors que nous ne le méritons pas. Et Jésus est le modèle que nous voulons suivre. Alors, ça sera ma dernière partie. Bon, le dernier point qui me semble sans doute essentiel, c'est que l'amour, c'est finalement tout. L'amour, c'est tout. Le reste, ça n'est rien. Toutes les autres choses que nous faisons, que nous expérimentons, n'ont aucune valeur si elles ne sont pas porteuses d'amour et portées par l'amour, si elles ne sont pas en Christ. Les dons eux-mêmes, qui pourtant semblent faire vivre l'Église, qui sont importants dans l'Église, voire essentiels dans l'Église, eh bien les dons eux-mêmes n'ont aucune valeur. Ils peuvent être impressionnants, susciter l'admiration, et eh bien malgré tout, ils demeurent incomplets C'est ce qu'on lit au verset 10. Ils ne sont pas complets, ils sont imparfaits, ils sont temporaires. Dans une version, une traduction anglaise, il y avait même « ils sont inadéquats ». C'est pas ça qu'il faut rechercher. Et un spécialiste des Écritures, dans une réflexion sur les dons spirituels, a souligné que finalement, Paul parle des dons uniquement parce que les dons posent problème à Corinthe, que sinon il n'en aurait pas parlé. Il aurait sans doute parlé de l'amour, mais les dons, il en parle à cause d'un dysfonctionnement dans une église. L'amour est plus essentiel, il est plus fondamental, parce qu'il touche à notre être même, à notre manière d'être, plutôt qu'à une manière de faire uniquement ou de servir. L'amour, c'est le don par excellence. Cela, ça signifie qu'on n'a absolument rien pour s'enorgueillir, absolument rien pour se sentir supérieur ou important. L'amour, verset 4, ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Sans l'amour qui vivifie, on n'est rien. Et la foi elle-même, on le lit au verset 2, la foi elle-même n'a pas de valeur si elle est dissociée, séparée de l'amour. Croire sans aimer, finalement, c'est du vent. Et toutes ces choses qui peuvent attirer le regard, voire même l'envie, des talents de musicien, l'intelligence, l'aisance verbale, n'ont pas de valeur en soi. C'est vrai non seulement de ce qui plaît dans le monde, mais aussi de ce qui plaît, de ce qui est utile dans l'Église. Parler au nom de Dieu, pour citer le passage d'un Corinthien, avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, bref, être un chrétien exemplaire, ou alors exercer les dons de l'esprit qu'on a dans le chapitre précédent, au chapitre 12, comme la sagesse, la guérison, la prophétie, eh bien Paul affirme que tout cela, ça n'est rien. Ça n'est rien si l'amour n'est pas le fondement sur lequel s'appuient ces dons. En fin de compte, il faut se demander ce qui nous motive à être actifs dans l'Assemblée, dans l'Église, et je pèse mes mots, puisque je suis active ce matin. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour qui est-ce qu'on le fait? Et si ce n'est pas par amour de Dieu, le Créateur, notre Père, par amour et par service de nos frères et sœurs, des autres, alors nous le faisons en vain. Et peut-être même que nous le faisons par vanité. Peut-être même vaudrait-il mieux ne plus le faire. Paul écrit « Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale brillante. » Plusieurs siècles plus tôt, l'Ecclésiaste disait un petit peu la même chose. Dans son livre au chapitre 1, dès le chapitre 1, il dit « Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien ». Il répète cette même phrase à la fin de son livre, au chapitre 12. Et puis il en vient à une conclusion. C'est la suivante. « Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. » Et l'Ecclésiaste dit vrai, Dieu nous jugera, il verra tout ce que nous avons accumulé d'inutilité dans nos vies. Il verra aussi si nous l'avons aimé, si nous l'avons suivi, écouté. Et si tel est le cas, alors avec Paul, nous pourrons dire, comme il le dit au verset 12, « Je connais comme Dieu me connaît ». Il n'y aura plus de danger de vanité, de vacuité, d'inutilité, car nous serons dans l'amour, cet amour parfait qui vient du Créateur. Alors aujourd'hui, nous vivons dans l'attente de ce moment. Notre perception, notre connaissance sont imparfaites, partielles, elles sont un peu déformées, comme dans un miroir, Paul le dit. Nous sommes finalement à bonne distance de ce que nous contemplons, de ce que nous espérons. Nous vivons donc dans la foi et dans l'espérance, qui toutes deux disparaîtront le jour où nous serons réunis avec le Seigneur, le jour où nous verrons face à face, comme nous le lisons au verset 12. Seul l'amour ne disparaîtra pas. L'amour nous unit déjà maintenant au Père et continuera de nous unir à lui pour l'éternité. Voilà pourquoi Paul écrit « Maintenant, trois choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Seul l'amour demeurera toujours. Le plus grand des commandements, c'est l'amour, c'est d'aimer notre prochain, c'est ce que disait Jésus. Et Paul nous le répète ici, dans cet hymne à l'amour. Alors pour conclure, je ne voudrais surtout pas que mes paroles sonnent creux, qu'elles ne soient qu'une cloche qui résonne vide de sens. Quelqu'un a d'ailleurs écrit au sujet du passage de 1 Corinthiens 13 qu'il y a des textes bibliques qui sont faits pour être médités et priés, non pas pour être aplatis par des commentaires. Ce passage en fait partie. Les mots de Paul sont sans doute plus remarquables et plus essentiels que tous les discours qu'on peut faire autour de ce texte. C'est pourquoi, pour terminer, je vous invite à écouter à nouveau la lecture de ce passage de 1 Corinthiens 13. Amen.
L'amour est au-dessus de tout. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langues inconnues disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, trois choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.